VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Jacques Aristide en votre compagnie. Très content de vous retrouver pour Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres en ce mardi 1er mai 2018. Au moins 24 morts dans des attentats suicides dans le nord-est du Nigeria. La Centrafrique également le théâtre d'une nouvelle attaque armée qui a fait environ 20 morts dans une église de Bangui.
On est sur le terrain. On ne sait pas. On combat le MINUSCA ou on combat qui ? Le FACA et les gendarmes. Le MINUSCA est devant et le FACA et les Balaka, ils sont derrière.
En RD Congo, arrestation de plusieurs militants du mouvement Lucha à Goma. Le Maroc annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives dans 10 minutes. Au Nigeria, des dizaines de personnes ont trouvé la mort ce mardi dans un double attentat dans le nord-est du pays. Ces attentats ont été perpétrés au lendemain de la visite du président Muhammadu Buhari à la Maison-Blanche, où il a remercié Washington pour son aide dans la lutte contre Boko Haram. Le point avec Blanche Sanou.
En début d'après-midi aujourd'hui, un kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée de Moubi dans l'état d'Adamawa, puis un second dans un marché à proximité au moment où les fidèles s'enfuyaient. Le porte-parole de la police locale, Othman Aboubakar, a confirmé la mort de 24 personnes, mais les témoins avancent des bilans beaucoup plus lourds. Sani Kakale, sur place pour porter secours aux victimes, avance le chiffre de 42 morts et de 68 blessés. La ville de Moubi a été régulièrement visée par les attaques du groupe Boko Haram. Fin novembre, au moins 50 personnes ont été tuées dans un attentat similaire. La lutte contre le terrorisme a été au cœur de la rencontre entre le président nigérian Muhammadu Buhari et son homologue américain Donald Trump à la Maison-Blanche hier. « Nous sommes très reconnaissants aux États-Unis pour leur fort soutien », a déclaré M. Buhari. Les États-Unis ont vendu cette année pour 496 millions de dollars d'armement au Nigeria, un contrat portant sur des avions super Tucano.
Des grenades et des coups de feu tirés sur les paroissiens pris au piège. C'est la scène ce matin lors d'une attaque armée contre l'église Notre-Dame de Fatima près du quartier de PK5 à Bangui en République centrafricaine. Le bilan, toujours provisoire, fait état d'une vingtaine de morts et d'une cinquantaine de blessés. De la capitale centrafricaine, le fil des événements avec Freeman Sipila.
L'attaque a eu lieu aux environs de 10h du matin, alors que les membres de la fraternité Saint-Joseph célébraient leur saint patron. Des hommes armés ont pris d'assaut les locaux de l'église, tuant plusieurs fidèles, dont un prêtre, blessant plusieurs autres. Abbé Brad Walter Mazangé, chancelier de l'archidiocèse de Bangui.
Ce matin, lors de la fête de patron des travailleurs et surtout Saint-Joseph, et donc la fraternité Saint-Joseph organise souvent une fête, et ils ont choisi de célébrer Notre-Dame de Fatima. Et donc c'est là-bas que nous avons entendu des coups de feu, on a attaqué la paroisse Notre-Dame de Fatima.
Savez-vous pourquoi l'église est attaquée ?
Non, pour le moment, je ne sais rien du tout.
L'intervention des forces de sécurité intérieure a permis de repousser les assaillants. Les affrontements à l'arme lourde ont provoqué la panique dans la ville alors que le président de la République assistait encore au défilé des travailleurs à l'occasion du 1er mai. Dans un communiqué, Médecins sans frontières assure avoir pris en charge dans ces structures plus d'une cinquantaine de blessés par balle, dont 6 malheureusement ont succombé de leurs blessures. Bangui est paralysé, des barricades sont érigées dans les quartiers et sur certaines artères principales. La mosquée du 2e arrondissement réhabilitée récemment est de nouveau incendiée et la tension reprend de plus belle. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Nous y reviendrons tout à l'heure dans la partie magazine. En République démocratique du Congo, plusieurs militants du mouvement Lutte pour le changement, Lucha, ont été interpellés ce mardi à Goma. Les autorités affirment que leur rassemblement était interdit. Au total, 27 personnes ont été arrêtées. D'après le militant Ghislain Mouiwa, parmi les personnes interpellées figure Fred Boma, déjà arrêté entre mars 2015 et août 2016, et qui demande le départ du président Joseph Kabila et des élections libres. Également, Rebecca Kavugo, qui a été récompensée en mars 2017 parmi 13 autres femmes pour son courage par le département d'État américain. Ces jeunes gens étaient en train de troubler l'ordre public. Ils seront auditionnés puis déférés devant la justice, a déclaré un commandant de police. Timothée Mouissa Kense, maire de Goma, Goma, désigné par ordonnance présidentielle et non élu, a rappelé que toute manifestation a été interdite dans la ville, endeuillée par une fusillade dans un quartier périphérique dimanche soir. Toujours en RD Congo, l'Assemblée nationale a adopté la loi sur la répartition des sièges, une loi qui doit être promulguée d'ici au 8 mai par le président Joseph Kabila, après examen par le Sénat. Il s'agit d'une autre date importante du calendrier électoral qui doit déboucher sur des élections présidentielles, législatives et provinciales le 23 décembre. Pour sa part, le collectif laïque de coordination proche de l'Église catholique annonce la fin de sa trêve en dénonçant l'incertitude qui pèse sur ces élections. Il dit s'atteler à des préparatifs pour des actions pacifiques d'envergure, demandant aux Congolais d'être prêts à affronter le pire pour arracher le meilleur. Coup d'envoi aujourd'hui de la campagne pour le référendum constitutionnel au Burundi à moins de 20 jours du scrutin. Le projet d'amendement de la Constitution ouvre la voie au maintien au pouvoir de Pierre Nkurunziza jusqu'en 2034. Le président de 54 ans, qui est au pouvoir depuis 2005, pourrait ainsi briguer à partir de 2020 deux mandats de 7 ans, ce qui attire des critiques de la communauté internationale, notamment des États-Unis et de l'Union africaine. John Linden.
Au total, 26 partis politiques, la plupart proches du parti au pouvoir CNDD et FDD et la coalition d'indépendants Amizero et Abarundi ont été autorisés à faire campagne selon une liste publiée par la commission électorale. Officiellement, on ne peut battre campagne que pour le oui ou le non. Un décret présidentiel publié il y a une semaine prévoit en effet une peine de 1 à 3 ans de prison pour quiconque tentera de convaincre les électeurs de s'abstenir. Le vote n'est pourtant pas obligatoire au Burundi. L'opposition en exil, regroupée au sein de la CENARED, a appelé à boycotter le référendum qui, selon elle, va signaler l'arrêt de mort de l'accord de paix d'Arusha de 2000. Cet accord structure la vie politique au Burundi depuis sa signature et avait mis fin à la guerre civile qui a fait plus de 300 000 morts entre 1993 et 2006. Dans un communiqué, le département d'État américain s'est dit préoccupé et a jugé le processus d'amendement de la Constitution à travers ce référendum pas transparent et contraire à l'accord d'Arusha et aux obligations juridiques internationales.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Je vous le disais en titre, le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, accusé d'avoir facilité la livraison d'armes au front Polisario par l'intermédiaire de son allié du Hezbollah libanais. D'après le ministre marocain des Affaires étrangères, une livraison d'armes a été récemment fournie au Polisario, le mouvement indépendantiste sahraoui soutenu par l'Algérie via un élément à l'ambassade iranienne à Alger. L'ambassadeur du Maroc à Téhéran a quitté ce mardi et le Maroc va demander au chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran de quitter le royaume sans délai. Les Européens affirment que la masse d'informations recueillies selon Israël par ses espions à Téhéran ne semble pas justifier une remise en cause de l'accord nucléaire conclu en 2015 avec l'Iran, la France, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Tous partisans de cet accord historique ont indiqué que les informations présentées hier par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour dénoncer l'accord ne faisaient que conforter son bien fondé. Par ailleurs, l'Union européenne appelle les États-Unis à exempter définitivement l'Europe des droits de douane sur les importations d'aluminium et d'acier. Cela fait suite à la décision de Washington de prolonger d'un mois la mise en application de nouvelles taxes. Abdourahmane Dia.
Les Européens ont certes bien accueilli la nouvelle exemption provisoire des droits de douane sur l'acier et l'aluminium accordés à l'Union européenne, au Mexique et au Canada. Mais ils déplorent une décision qui, pour eux, ne fait que prolonger l'incertitude. La Maison-Blanche a annoncé hier soir, dans un communiqué de dernière minute, qu'elle consentait à prolonger jusqu'au 1er juin le sursis qui était censé s'achever aujourd'hui 1er mai. Washington souligne qu'elle reste focalisée sur la préservation de la sécurité nationale des États-Unis lors des prochaines discussions. Mais la Commission européenne estime que cette situation d'incertitude affecte déjà les décisions commerciales. L'UE devrait être totalement et définitivement exemptée de ces mesures, car elles ne peuvent être justifiées par des raisons de sécurité nationale, a ajouté l'exécutif européen, assurant que les Européens ne négocieront pas sous la menace. Le président Donald Trump avait promulgué le 8 mars une hausse des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium.
Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, assure que les États-Unis soutiendront le peuple afghan et le gouvernement à Kaboul au lendemain d'un double attentat suicide qui a fait au moins 25 morts, dont 9 journalistes. Le meurtre de journalistes et d'autres personnes innocentes est un fort symbole de ce qu'on défend et surtout de ce à quoi on s'oppose, a confié M. Mattis depuis le Pentagone. Le double attentat d'hier, revendiqué par le groupe État islamique, a ôté la vie à au moins 25 personnes, dont le chef photographe de l'AFP à Kaboul, Shah Marais. Et puis en France, des heurts violents entre la police et des personnes en cagoule, membres de la mouvance radicale des Black Blocs, ont éclaté en marge du défilé du 1er mai ce mardi à Paris. En revanche, des dizaines de milliers de personnes ont défilé le matin dans le calme dans les autres grandes villes du pays. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
La France demande une exemption permanente aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. C'est à la suite de la décision de la Maison-Blanche d'accorder un nouveau sursis d'un mois à ses principaux alliés, notamment l'Union européenne. Paris estime qu'aucune raison ne justifie que l'Union européenne soit soumise à des augmentations unilatérales de droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Dans le cas d'Ottawa et de Mexico, le président américain Donald Trump a lié une éventuelle exemption définitive à la renégociation du traité de libre-échange nord-américain ALENA. En mars dernier, la balance commerciale de l'Afrique du Sud a dégagé un excédent de 762 millions de dollars. D'après le service sud-africain des revenus, les exportations ont augmenté de plus de 9%, notamment les produits agricoles et les métaux. En revanche, les importations ont chuté de 2% pour la même période. La balance commerciale avait connu un déficit de 603 millions de rands en février et de 27 milliards de rands en janvier. Le Malawi bénéficiera du FMI de plus de 112 millions de dollars au titre de la facilité élargie de crédit pour soutenir les réformes économiques et financières. Ce plan permettra de porter le taux de croissance à 7%. Le produit intérieur brut a atteint 4% en 2017. Le financement est prévu pour 3 ans et permettra un décaissement immédiat de 16 millions de dollars, représentant la première tranche. Une dette de plus en plus élevée menace l'économie du pays.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Demi-finale retour de la Ligue des Champions.
Eh oui, l'Europe du football a les yeux rivés sur Madrid. Coup d'envoi 18h45, temps universel. Real Madrid, Bayern Munich. La victoire à l'aller, 2-1 des Madrilènes. Et donc, les Bavarois qui vont devoir marquer 2 buts pour sauver l'espoir. Zinedine Zidane qui s'attend à cravacher comme jamais pour atteindre sa 3e finale d'affilée. Rien n'est joué au stade Santiago Bernabéu.
Et demain, la Roma tentera l'impossible.
3 semaines après un incroyable exploit contre Barcelone, l'AS Rome doit de nouveau remonter 3 buts de retard demain contre Liverpool pour atteindre la finale de la Ligue des Champions. Et l'entraîneur Eusebio Di Francesco l'assure, les Romains ont envie de faire un nouveau miracle.
Mancini tout proche du poste de sélectionneur.
Et oui, l'entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg, Roberto Mancini, s'est dit prêt à devenir sélectionneur de l'Italie. Annonce de l'administrateur de la fédération. Le budget prévu pour le futur sélectionneur et son encadrement a été fixé à 5 millions d'euros par an. La Squadra Azzurra n'a plus de sélectionneur depuis le mois de novembre 2017 et le départ de Gianpietro Ventura après l'échec historique face à la Suède en barrage d'accession au Mondial.
Salah, roi d'Angleterre.
L'attaquant vedette de Liverpool, Mohamed Salah, auteur de 43 buts cette saison, a été élu joueur de l'année par l'association des journalistes couvrant le football anglais. L'Égyptien qui a devancé d'une courte tête le joueur de Manchester City, le Belge Kevin De Bruyne. Le mois dernier, Mohamed Salah avait déjà reçu le trophée de joueur de l'année de la part du syndicat anglais des joueurs professionnels.
Et puis NBA, championnat de basket nord-américain.
Après un premier tour des playoffs facile, Philadelphie est tombée sur un os hier à Boston. Les Celtics ont nettement dominé les Sixers 117-101 lors du premier match de cette demi-finale de conférence Est.
Merci Nicolas. We'll be right back.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Comme promis, retour en République centrafricaine où il y a eu au moins 20 morts et une cinquantaine de blessés suite à l'attaque ce matin contre l'église catholique de Fatima par une bande armée du PK5. Tout le monde pointe du doigt des éléments armés du quartier PK5. Idriss Fall a recueilli la réaction de Makhtar Al-Nimeri, alias Force, chef d'un groupe armé du PK5 à Bangui, qui nie toute implication dans ce regain de violence.
Monsieur le journaliste, moi je ne sais rien, je suis malade au lit, et environ 9h30, 10h, j'ai écouté les balles, ça sonne vers le quartier Fatima. J'ai demandé que les policiers et les gendarmes, ils ont venu quelqu'un avec son véhicule, ils pensent que c'est moi. Ils ont tiré sur le véhicule, ils ont blessé le monsieur. Dès que le monsieur a sauvé sa vie, il est venu au kilomètre 5, ses parents, ils ont revendiqué. Parce que leur frère est en danger, en coma. Il n'a pas même des armes pour aller tuer quelqu'un, ni grenade, ni effet militaire. Ça veut dire, je ne sais pas ce qui est arrivé. Et maintenant, on est sur le terrain. On ne sait pas. On combat le MINUSCA ou on combat qui? Le FACA et les gendarmes. Le MINUSCA est devant et le FACA et le BALAKA, ils sont derrière. Ils tirent sur nous.
Vos forces ne sont pas mêlées à l'attaque de l'église Fatima.
Je ne connais rien sur l'église de Fatima. Moi, je ne suis pas contre les chrétiens. Ça fait 5 ans. Je suis à côté de l'église. Pourquoi je n'ai pas allé brûler l'église? Il y a des éléments qui allaient chercher son cigarette. Et ils pensent que c'est moi. Et la police et les gendarmes, ils ont serré sur lui. Et le monsieur même, il se trouve à l'hôpital. Et l'histoire de l'église, moi, je ne sais rien. Si quelqu'un qui a les preuves sur moi, ou qui allait attaquer l'église, il n'a qu'à se présenter. Il y a les justices qui font son travail.
La MINUSCA dit que vous êtes des bandits qui extorquaient de l'argent aux commerçants du kilomètre 5.
Non, mais moi, je ne peux plus répondre à quelqu'un qui parle de renseignements verbaux sur quelqu'un qui travaille dans un cadre des Nations Unies. Avant de réagir, il faut descendre sur le terrain. J'ai pris même qui et pour qui. Ni 100 francs, ni 50 francs pour quelqu'un. Et les gens qui ont fait le rapport contre moi au niveau de la MINUSCA, je vais le planter et je vais planter le gouvernement. Est-ce qu'une fois, je suis allé chez eux demander l'argent, ou une fois, je l'ai traqué, ou une fois, j'ai tenté le chef de l'État pour une cause de coup d'État? Moi, j'ai travaillé la paix et la cohésion sociale. Et
maintenant, votre groupe, il veut quoi? Il demande quoi, votre groupe armé dans le PK5?
Mais mon groupe armé a réclamé rien. Nous, on attend que les DDR, il y avait des enfants, il y avait des commerçants qui ont les armes, mais il faut faire l'effort d'amener les gens là sur le DDR, monsieur le journaliste. Parce que le DDR n'est pas prêt. En même temps, le gouvernement n'est pas nous considéré. Parce que le mois d'avril, on a fait déposer les armes. On a appelé le chef de l'État. Appelez-le le conseiller, appelez-le tout le monde. Et monsieur, maintenant le président est allé par les urnes. Et le 26 avril, il faut venir récupérer les armes de 5 kilos. On est fatigué. Merci au chef de l'État qui est devenu président.
On écoutait Makhtar Al-Nimeri, alias Force, chef d'un groupe armé du PK5 à Bangui en République centrafricaine.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler que Le Monde au féminin, c'est à 19h05, temps universel, ce mardi, juste après les nouvelles. Les femmes et les jeunes en Afrique ont-ils intérêt à se regrouper en coopérative? Une question développée par le professeur Mireille Makambira, originaire du Burundi, économiste experte en genre aux États-Unis. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook le mardi. À très bientôt.
Nous vous le disions hier, au Gabon, la Cour constitutionnelle a dissous l'Assemblée nationale, le Sénat assurant la continuité du service législatif. La présidente de la Cour a également demandé la démission du gouvernement qui a reporté plusieurs fois l'organisation des élections des députés en 2016, en 2017, puis fin avril. Pour une réaction, Raissa Girondin a recueilli le point de vue de Raymond Dong Sima, ancien Premier ministre gabonais.
La législature actuelle arrivait à échéance en décembre 2016. Mais comme vous connaissez le contexte de 2016 qui faisait suite à l'élection présidentielle chahutée, l'élection ne s'est pas tenue et la Cour constitutionnelle avait pris une décision qui prorogeait le mandat des députés jusqu'à la mi-2017. Et la Cour à nouveau a été sollicitée et elle avait pris une décision qui prorogeait le mandat de l'Assemblée nationale jusqu'au 28 avril 2018. Puisqu'on avait déjà utilisé l'argument de la force, du cas de force majeure, qu'il ne serait pas question de proroger une troisième fois. Par conséquent, il n'y avait plus d'autre solution que de se conformer aux nouvelles dispositions constitutionnelles qui prévoient que, effectivement, à ce moment-là, l'Assemblée soit dissoute et que le gouvernement soit invité à déposer sa démission.
Vous parlez donc d'un retour à la normale.
Oui, c'est normal qu'on ait dissous, qu'on ait trouvé une porte de sortie à cette situation qui devenait tout à fait anormale. Et qu'il faut effectivement aller vers une élection. Moi, j'ai dit à plusieurs reprises que même si l'élection ne se passait pas dans les conditions tout à fait satisfaisantes de mon point de vue, parce qu'il y a des réformes à faire sur le dispositif électoral, mais il vaut mieux qu'on aille à une élection pour qu'on ait en face de nous des représentants du peuple qui aient un mandat en bonne et due forme.
Mais justement, quelles sont les perspectives d'avenir? À quoi peut-on s'attendre pour ces prochaines élections et puis quand seront-elles organisées?
Le problème, c'est de savoir si les élections qui vont venir auront plus de sincérité que les anciennes élections. Est-ce que le cadre électoral, est-ce que les lois électorales, est-ce que les électeurs seront traités sur un pied d'égalité?
Est-ce que l'organe en charge des élections aura ce souci d'équité?
On sait déjà que la réforme constitutionnelle qui a eu lieu a conduit à la mise en place d'une augmentation du nombre des députés qui ne répond pas à une distribution équitable de la démographie. Personne ne peut se prononcer dessus à l'avance. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de contestations en 2016 et ce qu'il faut espérer, c'est que les élections qui vont arriver donnent lieu à moins de contestations et qu'elles se passent dans des conditions de plus grande transparence.
La voix de l'ancien chef du gouvernement gabonais, Raymond Dong Sima, il était en ligne de Libreville.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Voilà un phénomène que, on en parle en fait beaucoup en ce moment, le phénomène global des fake news, ou comprenez, fausses informations. Un phénomène qui est pris très au sérieux au Congo-Brazzaville. Le gouvernement congolais menace de filtrer ou de couper totalement les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp et Twitter. Pour le ministre des Postes et des Télécommunications, Léon Juste Ibombo, il représente non seulement un risque de propagation de fausses nouvelles, de fausses informations, mais aussi d'incitation à la haine et à la violence. Faut-il pour autant tout bonnement interdire les réseaux sociaux? Des éléments de réponse avec notre correspondant sur place, Nguela Ngoussou.
Il ne se passe pas un jour sans que les Congolais ne découvrent un grand déballage sur la vie d'un dignitaire du pouvoir ou de l'opposition et leur famille. Affaires de corruption, de comptes offshore ou les disputes dans les réunions officielles, les scènes de ménage dans les cours des autorités, tout est rapporté. Aucun dirigeant n'est à l'abri de ce qui devait de plus en plus être pris au sérieux. À l'UPADES par exemple, la principale formation de l'opposition, les cadres pour réclamer la tenue du Conseil national sont en train de passer par les réseaux sociaux. Destin et loi, responsable uni pour le Congo, le parti de l'opposant Paulin Makaya, trouve plutôt qu'il fallait inventer les réseaux sociaux s'ils n'existaient pas.
Si les gens aujourd'hui parlent de ces jeux parce que les gens sont fatigués, non, il faut laisser les réseaux sociaux s'exprimer. Et c'est ce que se dit dans les réseaux sociaux, c'est faux. C'est la réalité. Dites-moi, quel est l'instrument aujourd'hui que le peuple, que les citoyens, même déjà l'opposition, même marché, on a vous interdit. Alors les gens sont obligés de passer par ces mécanismes de communication pour leur permettre de s'exprimer. Les gens en ont marre.
Pour Lauriane Pouki, une usagère des réseaux sociaux mais aussi coordinatrice d'une plateforme de site internet, il y a trop d'abus sur internet.
Oui, c'est juste une volonté de nuire. Il y a certaines informations, moi je me dis, il y a certaines personnes ou les gestionnaires de ces pages-là, des fois ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas d'informations, ils se disent bon, on doit créer un buzz. Et ils se mettent à fouiller des choses, à transformer des vérités ont des choses fausses pour attirer plus de gens parce que de nos jours, les gens sont plus intéressés à des futilités qu'à une vraie information.
Idriss Bosoto est un enseignant de nouvelles technologies à l'université Marie Ngouabi. Il a retenu une publication émouvante sur les réseaux sociaux.
On va parler également de ce fichier audio qui a circulé via le réseau social WhatsApp relatif à l'intervention du soi-disant sergent maçon ou je ne sais quoi, qui a on va dire, entraîné une véritable psychose dans Brazzaville pendant près d'un mois. Tous les Congolais étaient, on va dire, affectés directement et indirectement. Information qui a eu un impact social, mais qui a eu également un impact économique et surtout sécuritaire.
Mais qu'est-ce qui peut bien justifier un tel accaparement presque agressif des Congolais sur les réseaux sociaux? Alphonse Ndongo, un journaliste sur les réseaux sociaux, tente une explication.
Lorsque ceux qui sont censés donner la bonne information ne la donnent pas à temps ou gesticulent pour la donner, évidemment, ça laisse libre cours à tout genre de rumeurs, de mauvaises informations et donc, et partant, de fake news.
Depuis un moment, la plupart des membres du gouvernement se dotent des comptes Facebook ou Twitter pour essayer de répondre à toutes ces attaques. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et maintenant, cap sur le Cameroun, où ce 1er mai, c'est la fête évidemment, la fête internationale du travail, ne sera pas célébrée avec beaucoup de ferveur par plusieurs agents des sociétés de sécurité privées. Ces derniers déplorent de plus en plus ce qu'ils appellent les mauvaises conditions de vie et de travail. Syndicats et sociétés civiles au Cameroun s'en inquiètent également. De Yaoundé, le reportage de notre correspondant Emmanuel Julenta.
Les vigiles, comme on les appelle communément au Cameroun, assurent la sécurité des entreprises publiques, privées, mais aussi de certains domiciles. En tenue de travail ou pas, ils filtrent les entrées et sorties de jour comme de nuit, mais vivent dans des conditions de travail précaires. Ousmane et Abdourahmane sont employés de deux sociétés de sécurité privées à Yaoundé.
Ils ne nous paient pas bien, c'est ça le problème.
Et on vous paye combien?
35 000. Si quand tu as fait un an dans les sociétés, on va te donner les primes. Ils sont parlés comme ça, ils ne donnent pas aux gens.
Quand on vous dit qu'on vous paye telle somme, après tu te retrouves avec les moitiés, bien on diminue un peu dans ton salaire.
Ces mauvaises conditions de travail des agents de sécurité privée sont les mêmes sur l'ensemble du territoire national. La société civile camerounaise qui s'est penchée sur ce dossier évoque de graves violations des droits de l'homme de ces travailleurs. Dora Sende et Boubakari Hassana, membre du collectif camerounais des organisations des droits de l'homme et de la démocratie dans les régions du littoral et de l'extrême nord.
Dans le littoral, il y en a qui font des licenciements abusifs. Non seulement tu lui prouves d'un droit qui est de travailler, mais tu lui prouves aussi du droit de recevoir la contrepartie par rapport à un contrat que vous vous êtes donné.
Il y a les employeurs qui ne veulent pas affilier leur personnel. Il y a les non-respects des textes et les règlements.
Seules 9 sociétés de sécurité privées détiennent l'agrément d'exercice d'activité au Cameroun. Difficile dans ce contexte pour les responsables syndicats de défendre les droits des vigiles camerounais. Célestin Mbama, secrétaire à l'organisation de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun.
Que les employeurs de ce côté, dès qu'ils sentent qu'un garçon est syndiqué, ils le mettent à la porte. Mais à la CSTC, nous étions à l'origine de l'élaboration de leur convention collective, malgré qu'elle connaît des petits couacs toujours du fait des employeurs au niveau du ministère du Travail.
La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, organe créé par le gouvernement, a été saisie par le collectif camerounais des organisations des droits de l'homme et de la démocratie sur la situation des employés des entreprises privées de sécurité. Pierre-Paul Moubitan, président du dit collectif.
Nous entrons dans ce domaine aussi pour aller sensibiliser, former, suggérer de manière à ce que tous les acteurs puissent travailler en synergie pour qu'il y ait véritablement une bonne gouvernance dans ce secteur.
En attendant, la plupart des vigiles camerounais vont vivre un 1er mai plein de soucis. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Joselle Mauricien. C'était Bill Barber à la technique. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.